Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vous raconte le parcours étonnant d'un Breton, médecin de la marine, grand voyageur, écrivain et poète, dont l'œuvre va enfin être éditée en novembre dans la prestigieuse collection de la Pléiade, 101 ans après sa mort. Seconde partie, Ségalène et la Chine. À cette époque, la Chine est toujours un empire, celui des Qing, mais il est entre les mains d'un enfant. Le petit Puyi, âgé de 3 ans, ne sait pas encore qu'il sera le dernier empereur. C'est la terrible impératrice douairière Cehui qui a choisi ce petit neveu pour succéder à l'empereur Guangxiu. Après avoir séquestré ce dernier, elle a fini par le faire assassiner. Ce forfait ne lui réussira pas, elle mourra un jour après. Puisque Puyi est trop jeune pour exercer le pouvoir, c'est son père, le prince Chuan, qui assure la régence. À cette période relativement calme, le régime impérial fonctionne encore à l'intérieur de la cité interdite dans ses fastes millénaires. Une vision fascinante. À peine arrivé à Pékin, Victor Ségalène repart pour Tianjin afin de rencontrer Paul Claudel, qui y est alors consul de France. Il admire son talent de poète, mais juge l'homme assez peu sympathique. Il parle de Rimbaud. Lorsque Voisin arrive à son tour à Tianjin, Ségalène l'emmène aussitôt à Pékin, où il s'installe dans une grande maison que le médecin-écrivain avait louée dans la ville tartare, à 2 pas de la cité interdite, dans le quartier chinois, plus authentique que celui des légations. Aujourd'hui, celui-ci n'existe plus, pas davantage que celui des légations. Ils ont été rasés, c'est devenu la fameuse place Tiananmen. Auguste Gilbert de Voisin, qui se fait appeler Augusto par ses amis, a 32 ans, un an de plus que Ségalène. Déjà gandé, séduisant, c'est un proche de Pierre-Louis et de Claude Farrère. Il vient de publier chez Fayard « Le bar de la fourche », un roman populaire à succès du type western. Les deux amis sont inséparables. On ne sait d'ailleurs s'ils allèrent au-delà de l'amitié, peu importe. Dans cette belle résidence, au milieu de leurs livres et de leurs documents anciens, ils préparent leur expédition archéologique. Ils choisissent leurs chevaux et visitent aussi Pékin. Chaque jour, au galop de leur monture, ils parcourent 20 km autour de la cité interdite ou vers le temple du ciel. Ils découvrent les lacs et les jardins. La nuit, ils fument volontiers un opium de qualité et rêvent à leurs prochaines aventures. Les deux amis partent le 9 août 1909 avec quelques assistants et une caravane de mulets et d'ânes. La plupart du temps, ils sont à cheval, mais il leur arrive d'emprunter des trains, des jonques et des sampans. Leur itinéraire les conduit en direction du sud-ouest vers Xi'an. Ensuite, ils remontent le fleuve bleu, passant par Chongqing avant de gagner Shanghai, Canton et Hong Kong. C'est un périple de 3000 km, mais ils ne s'arrêteront pas là, puisqu'ils feront aussi un aller-retour au Japon. Sur leur chemin, ils découvrent des stèles de pierre gravées de poèmes chinois. Une véritable forêt qui va fasciner Ségalène au point d'y consacrer un livre qu'il appellera simplement « Stèles ». Le 15 décembre, ils s'embarquent à bord d'une grande jonque qui les conduit à Chongqing. Là, ils font la connaissance d'un officier de marine, Jean Lartigue. Il deviendra l'un des plus chers amis de Ségalène et fera partie de leur mission archéologique en 1914. Inspiré par sa navigation sur le fleuve bleu, Ségalène écrira un très beau texte, « Le Grand Fleuve ». Le 4 février 1910, les amis s'embarquent pour le Japon. Ils visitent Nagasaki, Kobe, Osaka, Kyoto et Tokyo. Lorsqu'ils reviennent à Hong Kong, Yvonne et le petit Yvon débarquent eux aussi. Ségalène et sa famille prennent la route de Pékin tandis que Gilbert de Voisin regagne la France. Depuis qu'il est en Chine, Ségalène a commencé à écrire « Fils du ciel », une biographie de l'empereur Guangxiu, celui que la redoutable Cehui a emprisonné et fait assassiner. Grâce à une audience accordée par le régent, le père du jeune empereur, à l'amiral de Castres et à quelques officiers de la marine française, Ségalène obtient de faire partie du groupe qui pénètre à l'intérieur de la cité interdite. Sa fascination est totale. À cette époque, il vient de rencontrer le fils du directeur de la Poste française à Pékin, Maurice Roy. Ce jeune et beau garçon est parfaitement bilingue. Il va donner des leçons de chinois à Victor. Il intéresse d'autant plus l'écrivain médecin qu'il affirme avoir ses entrées au palais. Il lui fournit de nombreux renseignements sur la vie dans la cité interdite. Il prétend même être l'amant de l'impératrice douairière, la veuve de Kuang Xiu. Il affirme aussi avoir bien connu le défunt empereur dans son lieu de détention, un palais au milieu du Nil, non loin de la cité interdite. Peu à peu fasciné par ce personnage, Ségalène décide de renoncer à la biographie de l'empereur et d'en faire le héros de son livre. Il s'appellera René Leys, mais il s'agit en fait de Maurice Roy. Celui-ci raconte des histoires de plus en plus rocambolesques. Il se prétend aussi chef de la police secrète au courant de tous les complots et révolutions potentielles. En réalité, Maurice Roy est sans doute un génial affabulateur. Ses lettres incroyables sont conservées à la Bibliothèque nationale. Grâce à lui, Ségalène a sans doute écrit son plus beau roman. Il est fortement recommandé de le lire avant d'aller à Pékin et de visiter la cité interdite. Le Pékin d'avant la Révolution ressuscite avec ses conspirations, ses intrigues, ses jardins, ses trésors. Cependant, Maurice Roy commence à le lasser. Il va bientôt partir pour Shanghai, se marier et travailler pour un banquier français. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si le nom de Leys, lorsqu'on y remplace le Y par un I, et l'anagramme de lies, mensonge en anglais. Mensonge peut-être, mais quel bonheur de lecture! Une fois de plus, Victor Ségalène change de vie. Il obtient de succéder à un médecin qui vient de périr en combattant une épidémie de peste en Mandchourie. La famille s'installe alors à Tianjin et Victor donne des cours de médecine en anglais à l'Imperial Medical College. Néanmoins, il peut continuer à faire de fréquents séjours à Pékin. Le 12 février 1912, la révolution chinoise met fin à l'Empire. L'impératrice douairière signe l'acte d'abdication au nom du dernier empereur, le jeune Puyi, qui n'a que 6 ans. La famille impériale, bien que dépourvue du pouvoir, pourra continuer de vivre à l'intérieur de la cité interdite. Le nouveau président de la République de Chine, le généralissime Yuan Shikai, demande à Ségalène de devenir le médecin de son fils. Le Français accepte et profite de sa proximité avec le sommet du pouvoir chinois pour tenter d'obtenir l'appui des nouvelles autorités afin de créer à Pékin une fondation sinologique française ou un musée chinois. C'est la raison pour laquelle il se rendra en 1913 à Paris avant d'entreprendre sa deuxième campagne de fouilles archéologiques avec ses amis voisins et l'Artigue, comme je vous l'ai raconté au début de mon récit. Sitôt arrivé à Marseille en octobre 1914, Ségalène reçoit son affectation à l'hôpital de Rochefort. L'Artigue rejoint un régiment de fusiliers marins dans les Flandres et voisins s'engagent dans l'artillerie coloniale. En 1915, Ségalène est nommé à l'hôpital de Brest pour effectuer des tâches administratives qui lui laissent le temps de travailler à ses livres « Peinture, René Leys et Orphée Roy » en collaboration avec Debussy. Mais en juin 1916, Debussy, déjà malade, renonce à Orphée Roy. Une déception pour Ségalène, compensée par la sortie de son livre « Peinture » où les œuvres sont présentées sous forme de poèmes. En 1917, les sinologues Chavannes et Cordier réussissent à faire nommer Ségalène médecin attaché à une mission officielle chargée de recruter des volontaires chinois destinés à travailler dans les usines d'armement. En fait, ils seront affectés au nettoyage des tranchées, au plus près des combats. En même temps, Ségalène est autorisé à faire des recherches archéologiques dans la région de Nankin. Ce voyage en Chine ne va pas être simple. Il passe par Londres, la Suède, la Finlande pour arriver en Russie à Petrograd au début de février 1917 au moment de la révolution qui entraînera l'abdication du tsar Nicolas II en mars. En dépit de la situation, il parvient tout de même à gagner Moscou et à monter dans un transsibérien. Il arrive à Tianjin quelques jours plus tard. Son objectif est de lever 200 à 300 volontaires par jour. À son épouse Yvonne, restée à Brest, il écrit:
mon service, qui est de maquignonner des travailleurs chinois, s'accomplit avec aisance et bon rendement.
En avril 1917, 3 bateaux ont déjà embarqué près de 5000 recrues. Tout en travaillant à l'envoi de ces hommes, Ségalène continue ses travaux pour la statuaire de la dynastie des Yang. Il examine les photographies des lions et des chimères des sites funéraires. À Shanghai, grâce à l'appui des jésuites, il visite un tombeau remontant à l'époque de Confucius, celui d'un fils du roi Wu, que l'on mentionnait comme l'un des plus anciens souverains des royaumes de Chine. Mais lorsque sa mission prend fin, le Français doit quitter Pékin. Il retourne à Shanghai pour veiller à l'embarquement des travailleurs chinois à destination de Marseille. Dans le bateau, il y a 1500 travailleurs contractuels chinois. Cet épisode de la participation de Chinois à la Grande Guerre est très méconnu. Les Anglais aussi avaient fait venir 80 000 Chinois dans la Somme. Beaucoup moururent de la grippe espagnole et du choléra. Près de Noyelles-sur-Mer, un cimetière chinois abrite près d'un millier de tombes. De retour à Brest, Ségalen obtient une permission d'un mois prolongée par 4 semaines d'arrêt maladie. Il est épuisé physiquement et psychologiquement. Pourtant, ce séducteur impénitent va tomber amoureux de la meilleure amie de sa femme, Hélène Hilpert, dont le mari a disparu au fond. Son corps n'a cependant pas été retrouvé. Hélène est veuve potentielle et mère de 4 enfants. Yvonne est au courant. C'est l'ultime liaison de Ségalen. À l'hôpital maritime de Brest, il exerce comme chef du service de dermatologie et de vénérologie. Il va surtout soigner, au-delà de ses forces, les malades de la grippe espagnole. Après l'armistice, il envisage de quitter la marine pour se consacrer à l'archéologie. Mais au début 1919, son état s'aggrave au point qu'il est transféré au service de psychiatrie du Val-de-Grâce. Pour sa convalescence, il part avec Yvonne se reposer en Algérie, dans la propriété de son ami Charles de Polignac. Ségalen est dépressif. Revenu en métropole le 22 mars, il écrit le 21 avril à son ami Lartigue
« Je constate simplement que la vie s'éloigne de moi. »
Le 27 avril, il s'installe seul en Bretagne dans un hôtel en bordure de la forêt de Huelguat. Il écrit beaucoup à Hélène, mais c'est sa femme Yvonne qui lui rend visite. Le 21 mai, il quitte sa chambre muni d'un repas froid en direction de la forêt. Comme il ne revient pas, on alerte son épouse. Elle arrive accompagnée d'Hélène. Les deux femmes finissent par trouver le corps sans vie de Victor, gisant dans les bois. Blessé au tibia, il a tenté un garrot mais s'est vidé de son sang. Accident ou suicide? C'est le dernier mystère de Ségalen. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques. Mes pas vont ailleurs, de Jean-Luc Coatalem, prix Femina Essai et prix de la langue française aux éditions Stock 2017. Victor Ségalen, voyageur et visionnaire, un catalogue de l'exposition à la Bibliothèque nationale de France en 1999, sous la direction de Maurice Edbern, conservateur général au département des manuscrits. Les immémoriaux, par Victor Ségalen, collection Terre humaine, dirigée par Jean Mallory, aux éditions Plon, 1956.